12h15. Anastasia Lirti.
Bonjour, c'est le premier doublé roman dans l'histoire des Jeux Olympiques. Sarah Heuflin et Mathilde Grémaud ont offert l'or et l'argent à la Suisse ce matin en slopestyle à Pyeongchang. Un exploit qui permet aux Helvètes de se rapprocher de l'objectif fixé par Suisse Olympique. Le 17 février 2008, le Kosovo devenait indépendant. Mais qu'en est-il de la situation du pays 10 ans après? L'analyse de Micheline Calmiret, ex-conseillère fédérale en charge des affaires étrangères, est à découvrir dans notre page magazine. Déferlante de buts pour le HC Ajoie, les hockeyeurs jurassiens ont très largement dominé les Getseka Lions hier en s'imposant 12-1 dans le championnat de Swiss League. Météo, la pluie arrosera la région jusqu'en soirée. La limite de la neige s'abaissera en cours d'après-midi. Il fera 5 à 6 degrés au meilleur de la journée. Sarah Heuflin et Mathilde Grémaud ont fait honneur à la Suisse ce matin. Les freestyleuses ont glané 2 nouvelles médailles lors de la finale en ski slopestyle aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Des performances qui permettent d'inscrire le premier doublé roman dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est lors de la 3e et dernière manche que la genevoise Sarah Heuflin a finalement fait la différence pour décrocher l'or olympique. On l'écoute.
Je me sens tellement bien et je suis tellement contente que ma famille soit ici, qu'ils sont tous venus me voir et c'est vraiment, vraiment un moment qui est spécial et je suis tellement, tellement contente d'être sur le podium avec Mathilde. Donc vraiment, pour moi, c'était un rêve qui était encore plus gros, c'était d'être sur le podium avec Mathilde, avec une autre Suissesse, plutôt que de faire première. Donc vraiment, je suis trop contente. Si on m'avait dit ça il y a 4 ans, j'aurais vraiment pas cru cette personne.
Nous évoquerons le reste de l'actualité olympique dans le journal des Jeux. Bienne vit au rythme du carnaval. Le traditionnel cortège nocturne s'est déroulé hier soir dans les rues du centre-ville. Les festivités se poursuivent aujourd'hui. Le départ du cortège des enfants sera donné cet après-midi à 14h devant le Palais des Congrès. Les responsables de la Poste devront livrer leurs explications au monde politique en mars. Ils sont convoqués devant la commission des transports du Conseil national. Après la méfiance suscitée par les comptes truqués de cartes postales, les parlementaires veulent en savoir plus sur les déficits du réseau postal par lesquels le géant jaune justifie les fermetures d'office. À l'étranger, la Grande-Bretagne plaide pour un accord urgent sur la sécurité avec l'Union européenne. La première ministre Theresa May a insisté aujourd'hui sur l'urgence de négocier une coopération sécuritaire privilégiée avec l'UE après le Brexit. Elle s'est exprimée lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Les pourparlers entre Britanniques et Européens semblent actuellement dans une impasse. L'état d'urgence est imposé en Éthiopie pour 6 mois, annonce faite aujourd'hui par les autorités. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre. Une précédente mesure d'état d'urgence avait été prise en octobre 2016. Elle avait ensuite été levée en août dernier. Le pays, qui connaît une crise politique depuis près de 3 ans, est secoué par des violences.
Le magazine.
Il y a 10 ans, jour pour jour, le Kosovo proclamait son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Suite au conflit entre Kosovars et minorités serbes, la question du statut du Kosovo s'est imposée à la communauté internationale. La stabilité des Balkans était notamment en jeu. La Suisse a joué un rôle essentiel dans ce conflit. En 2005, la Confédération a été le premier pays à se prononcer en faveur de l'indépendance du Kosovo lors d'un discours au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. L'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmiret était la chef du département des affaires étrangères à l'époque. Mais qu'en est-il de la situation du Kosovo 10 ans après son indépendance? Micheline Calmiret.
Le pays fait face à de gros défis en termes de gouvernance sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique, puisqu'il y a toujours de la difficulté avec la minorité serbe au nord du Kosovo.
Malgré les problèmes actuels, il existe un potentiel de développement. Le pays est très jeune, avec 50% de jeunes au sein de la population. Quelles sont les perspectives d'avenir? Comment faire pour exploiter ce potentiel?
Le principal rôle de la reconstruction du Kosovo, ça a été tenu par l'aide internationale et par la diaspora. La direction du développement et de la coopération, avec la CAFOR, avec ses militaires, la Suisse participe, ainsi que la communauté internationale. Et le rôle de la diaspora est évidemment très important. Les gens retournent passer leurs vacances ou aident leurs familles. Les revenus de la diaspora sont importants pour ce jeune État. Mais je pense que le défi principal aujourd'hui, c'est d'apaiser les relations entre la minorité serbe au nord du Kosovo et les Albanais du Kosovo. Parce que ça, c'est pas très attirant pour les investisseurs, pour les entreprises, de savoir qu'il y a là toujours un potentiel de conflit.
L'indépendance du pays n'a pas encore été reconnue unanimement. Cette situation, est-ce qu'elle peut encore changer?
J'espère qu'elle changera et que petit à petit, d'autres États reconnaîtront l'indépendance du Kosovo. C'est d'une certaine importance, par exemple, pour l'Union européenne, puisque tous les pays membres de l'Union européenne n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Prenez l'Espagne, par exemple. Le Kosovo ne rentre pas dans les organisations internationales, n'est pas accepté. Par exemple, il a tenté une entrée dans l'UNESCO l'année dernière. Il y a eu opposition de la Serbie et de la Russie. Donc je pense que le principal défi aujourd'hui, outre celui de la gouvernance et de la lutte anticorruption, c'est évidemment l'apaisement de la situation entre la minorité serbe et le Kosovo lui-même.
Le Kosovo souhaite d'ailleurs adhérer à l'Union européenne. Là aussi, la route s'annonce encore longue.
Je pense que pour moi, si vous voulez, le futur se trouve dans les mains de l'Union européenne, l'orientation future, puisque la Serbie a demandé son adhésion à l'Union européenne. Des négociations d'adhésion sont en cours. En même temps, l'Union européenne souhaiterait un accord entre la Serbie et le Kosovo sur la question des minorités. Et donc, dans ce cadre-là, ça veut dire la conclusion d'un accord entre la Serbie et le Kosovo sous l'égide de l'Union européenne pourrait ouvrir la voie à un accord d'association avec l'Union européenne, avec alors des exigences et un contrôle européen plus étroit. Et pour moi, ça, c'est une musique d'avenir.
Le Kosovo a par ailleurs fait du sport un instrument diplomatique. Il avait arraché son adhésion au Comité international olympique en 2014 aux grandes dames de la Serbie. Il a obtenu sa première médaille olympique lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le HC Ajoie fait le plein de confiance avant les play-offs, Thibaut Heyer.
Les hockeyeurs jurassiens de Swiss League ont fait un véritable carton. Ils ont battu les Gezeka Lions 12-1 hier soir à Porrentruy. Cette rencontre était la dernière dans la saison régulière pour les Ajoulots qui commenceront les play-offs dans 8 jours. Elle a mis en lumière les qualités offensives du HCA. Ajoie ne connaît pas encore son adversaire pour les quarts de finale de ces séries. Il s'agira soit de Chaudefonds, soit d'Olten, soit de Turgovie. L'entraîneur Gary Sheehan fait le point sur les forces en présence.
Honnêtement, d'avoir joué 10 matchs contre Chaudefonds, si on peut les éviter, on va les éviter. Ça ne nous a pas été sur le point positif. On a fait 11 points, ils en ont fait 19 contre nous. Je pense qu'ils ont un avantage psychique là. Si on peut l'éviter, on va l'éviter. Turgovie a eu du succès contre nous également, mais c'est un adversaire qu'on serait déjà prêt à aller à la guerre contre en premier, peut-être, si on aurait le choix, honnêtement. Mais il y a toujours Holton là-dedans qui peut aussi se greffer d'une de ces trois équipes-là, mais on sait quand même que la tâche contre une des trois va être extrêmement difficile. Et puis, il faudra arriver avec un mental d'acier puis une équipe en forme.
Le CHZOA est toujours troisième du classement, mais Holton, Chaudefonds et Turgovie jouent encore demain et pourraient lui passer devant. Le HCA ne connaîtra que donc demain soir son adversaire dans les séries finales. Il s'agira d'une de ces trois équipes. À noter encore qu'Auguste Impose a été libéré par le club Ajoulo. Il était prêté par Genève Servette, mais il n'a pas répondu aux attentes des dirigeants du HCA. Toujours en hockey, mais en deuxième ligue, la réserve de Franche-Montagne réduit l'écart face à Delémont-Vallée. Les Francs-Montagnards ont battu l'Évadé 5-3 hier soir et ne sont plus menés que 2-1 dans ces quarts de finale de play-off. Et dans l'autre quart de finale, Moutier accueille Tramelan cet après-midi pour l'acte 3. Les deux équipes sont à 1-1 après deux rencontres et le match débute à 17h30. Et match de préparation en vue pour le FC Basse-Cour. Le pensionnaire de première ligue de football s'en va à la Maladière de Neuchâtel défier Payerne ce soir. Match prévu à 18h30. Et en Challenge League de football, Ville a battu Winterthur hier soir. Un succès 2-0 pour les Saint-Gallois. Le BC Boncourt à la quête d'un exploit pour s'ouvrir grande les portes des play-offs. La troupe jurassienne de Swiss Basketball League s'en va défier le leader du championnat, Fribourg Olympique, à 17h30 à Saint-Léonard. La Red Team doit encore ramasser des points à deux journées de la fin de la phase préliminaire si elle entend valider son ticket pour les play-offs. Le défi est de taille aujourd'hui contre l'équipe qui domine le basketball helvétique. Les Fribourgeois n'ont pas perdu la moindre partie à domicile cette saison. L'entraîneur du BCB, Romain Gaspo, est bien conscient de l'importance de la tâche qu'attend la Red Team.
C'est effectivement chez eux, à la maison, une équipe super bien coachée, un groupe où on sent qu'il y a vraiment une vraie alchimie. Donc c'est un gros challenge. Après, nous, on va faire avec nos armes. Comme toujours, on va essayer de bien préparer le match le plus sérieusement possible tactiquement. Après, il y a aussi des choses qui sont dans les mains des joueurs, hein, la capacité à surpasser, à être très performant le bon jour. C'est là-dessus que ça se joue.
La rencontre de ce soir aura un goût particulier pour Romain Gaspo. L'entraîneur du BC Boncourt retrouve Saint-Léonard, une salle où il a fait ses armes avec les filles d'Elphique Fribourg, une équipe qu'il a entraînée pendant 7 ans, Romain Gaspo.
Saint-Léonard, c'était la maison pour moi. Ça va être un petit peu particulier, effectivement, de revenir dans cette salle. On s'est organisé une petite fondue moitié-moitié après le match. Donc ça va être un moment particulier, plein d'émotions aussi pour moi. Je suis dans un nouveau challenge aujourd'hui. Je crois que j'ai la chance aussi de pouvoir entraîner au chaud à Boncourt. La salle est certainement moins belle, on mentirait si on dirait le contraire, mais il y a une ambiance folle aussi, donc très content de pouvoir rejouer à Saint-Léonard, même si ce sera un match particulier pour moi.
La partie entre Fribourg Olympique et le BC Boncourt commence donc à 17h30 à Saint-Léonard. Et retour de Roger Federer au sommet à plus de 36 ans. Le Rennais deviendra lundi le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. Il réalise cet exploit grâce à sa victoire d'hier contre le local néerlandais Robin Hazek, 4-6-6-1, 6-1 à Rotterdam. Le Balois établira aussi un nouveau record, lui qui sera une 303e semaine en tête de l'ATP. La performance est d'autant plus grande, il avait passé la majorité de son année 2016 à se faire soigner. Il n'avait plus gagné de grand chelem pendant plus de 4 ans. Roger Federer.
Aujourd'hui, je n'ai pas pensé à la place de numéro 1 comme c'était le cas encore avec la finale en Australie. J'étais plutôt décontracté, je dirais. Une fois en arrivant sur le terrain pour l'échauffement, je trouve que j'étais concentré. Je sens que j'étais un peu plus concentré que d'habitude. Je faisais pas les blagues, peut-être c'était aussi parce que je jouais sur le central devant, je sais pas, il y avait presque 8000 personnes parce qu'il n'y avait pas le match avec Goffin et Berdych. Alors ça, c'était un peu presque bien pour moi de me mettre un peu dans la zone, si tu veux. Et après, bon, j'ai attendu juste que le match, il était là, mais c'est plutôt relax et voilà, bon échauffement.
Et avant de se rendre en Corée du Sud pour le journal des Jeux, petit passage par la Franche Nordique. Cette équipe de ski de fond aura lieu demain, mais au Mont-Crozin. En raison du faible enneigement dans la commune jurassienne d'Ébreleu, les organisateurs ont décidé de déplacer le lieu du départ. Début des épreuves prévues à 10h.
RJB, le journal des Jeux. Le journal des Jeux. Avec votre centre automobile Émile Frey à Bienbruck, le partenaire officiel Toyota.
Sarah Euflin et Mathilde Grémaud ont fait l'honneur à la Suisse ce matin. Les freestyleuses ont glané deux nouvelles médailles lors de la finale en ski slopestyle aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. C'est lors de la troisième et dernière manche que la Genevoise Sarah Euflin a finalement fait la différence pour décrocher l'or olympique. Mathilde Grémaud y a cru jusqu'au bout. La Fribourgeoise a frappé fort en prenant la tête après le premier run, mais a dû se contenter de l'argent. Ce résultat est quand même bien plus que satisfaisant pour elle qui avait été blessée sérieusement au genou l'an dernier. En ski alpin, résultat surprise sur le Super G Dames pour le malheur de Laragout. La Slovaque Esther Lesdeka a remporté le titre de championne olympique alors qu'elle était aussi championne du monde en snowboard. Boutée hors du podium, Laragout, extrêmement déçue, finit à 1/100 du bronze. Les autres Suisses sont connus des fortunes diverses. Michel Gizine a fini 9e, Corinne Souter 17e, Yasmine Flory 27e. Et en quai sur glace masculin, après le revers subi contre le Canada en match initial, les Helvètes se sont très clairement ressaisis face à la Corée du Sud. Ils se sont imposés 8-0, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Les joueurs de Patrick Fischer ne devront toutefois pas se laisser griser par ce résultat. Un brin trompeur, selon le défenseur Félicien Dubois.
On est très content d'avoir les 3 points. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer trop les résultats. Autant le premier match, le Saka, était selon moi sévère, que ce soir, le 8-0 ne reflète pas forcément les 60 minutes. Je pense qu'on a travaillé dur vraiment au début. Il a fallu être patient. Ils sont venus fort. Chaque chance, chaque fois qu'ils s'approchaient du but, ça devenait assez chaud. Les spectateurs qui crient dans tous les sens. Donc, il a fallu garder la tête froide, rester solidaire. Et après, je pense qu'à la longue, on a réussi à les avoir un petit peu à l'usure. Les goals sont tombés. Ça fait du bien pour la confiance. Maintenant, on est très content de ces 3 points. Et demain, ça continue. Il y a encore quelque chose qu'il faudra améliorer parce que demain, c'est l'adversaire. sont d'un autre calibre qui arrivent.
Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux aux Jeux Olympiques, Joris Répond et Yann Hesler. En revanche, la perspective d'une médaille s'en va pour l'équipe suisse féminine. Cette nuit à Pyeongchang, les Suisses se sont inclinées en quart de finale face aux athlètes olympiques de Russie sur le score de 6-2. En curling, la team de Peter Descruz a remporté une troisième victoire cette nuit. Les Helvètes ont battu la Norvège 7-5. Du côté des dames, rien ne va plus. La formation de Silvana Tirinzoni s'est inclinée 8-7 face à la Suède, concédant ainsi une troisième défaite en quatre rencontres à Pyeongchang. Et vous avez rendez-vous d'ici quelques minutes avec l'émission Le Seigneur des Anneaux.
RJB, le journal des jeux. Le journal des jeux. Avec votre centre automobile Émile Frey à Bienbruck, le partenaire officiel Toyota.
Mais avant de passer au Seigneur des Anneaux, place à la météo. Aujourd'hui, le temps restera couvert, les précipitations sont de mise et ce, toute la journée. Quant à la limite des chutes de neige, elle devrait s'abaisser à 1200 mètres cet après-midi, avant de descendre encore entre 600 et 800 mètres ce soir et cette nuit. Avec tout ça, on aura également quelques rafales de vent, surtout cet après-midi sur le Jura. Côté température, les maximales peuvent grimper aujourd'hui jusqu'à 7 degrés. Il fait d'ailleurs déjà 7 degrés à Moutier, mais 5 degrés à La Neuville et à Bienne, 6 degrés à Delémont, 3 degrés à Tavannes et enfin 4 degrés du côté de Tramelan et de Saint-Imier. Demain, le temps sera toujours encore nuageux, du moins le matin. Les éclaircies se développeront en seconde partie de journée, mais il fera toujours encore frais, 5 degrés au maximum. Et cette sensation de fraîcheur sera renforcée par la bise. Lundi, la semaine débutera avec un ciel changeant. On alternera entre passages nuageux et quelques moments de soleil. Mais de la nuit de lundi à mardi, les précipitations feront leur retour.